Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous continuons donc dans nos lectures en liberté le roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Juste après-midi, farouche ferraille Crowley est sorti de l'anse de la forêt. Il a surgi par une prairie qui avançait dans le bois comme une petite baie. Il a marché jusqu'au bout sur le chemin. Derrière les arbres, il a vu la petite maison. Il a dit « Je vais marcher à la maison ». Il a marché à la manière d'un voleur de poules. Farouche Ferraille Crowley a reconnu, malgré la lumière grise, les volets étaient mi-clos. La porte était fermée, les fleurs étaient silencieuses autour des murs blancs. Farouche Ferraille Crowley était écorché au milieu de la cour. Il se demandait ce qu'il brassait là, misère. Il était sec comme une péniche sans eau. Il a marché trois pas. Il les a marchés à la maison. Il était habillé d'étoffes raides, allongé dans un soût neuf, bridé par la cravate. Ses bottes étaient cirées, puis sa main à tâtons sur sa jambe trouvait même pas le revolver pour protéger sa vie. Il a marché à la maison. Farouche a frappé. Il pensait « Je vais faire un beau naufrage ». Il sentait maillère souple comme un coin de banquette. Il s'est retourné pour regarder une dernière fois autour de lui. Il a frappé. Azeline a ouvert. Pour lui montrer comment simple c'était, elle a dit « La porte n'était pas barrée ». Azeline, c'était un portrait dans les yeux de Farouche. La vie n'avançait plus. Ça souriait l'un à l'autre et ça ne bougeait pas. Ils étaient empralinés comme du candy. La petite criminelle s'était pimpée, même du rouge sur ses lèvres, elle était si belle. Ça se fait, il a rentré. Ça se fait, elle lui a donné une tasse de café. Ça se fait, il lui a fait les yeux doux. Ça se fait, elle n'a pas résisté. Comment écrire une histoire pareille autrement? Elle lui a fait présent d'un gros bec sur la bouche. Il a trouvé ça goûtait bon. Il a murmuré « Oh, c'est pas mal curieux ce qui nous arrive là. » Elle se sentait gaie comme une musique. Elle a pouffé derrière sa menotte, elle a dit « Moi, je trouve pas. J'y étais assez préparé. » « Quel âge avez-vous donc ?» Elle lui a dit sans menterie « Moi, j'ai fait mes grands 16 ans. » Elle lui a refait un beau, ça goûtait meilleur encore. Elle a jeté le souffle de sa bouche dans la sienne. Après, elle a apporté sa langue. Ça se fait, la paire des amoureux se saoulait comme les grives à l'amour. Farouche a commencé à piquer la mignonne au ventre, il la mignotait avec sa main. Il cajolait sa grenouille sous ses doigts. Ça se fait, elle a reculé. Elle lui a posé son index sur les lèvres. Elle a dit avec des yeux mystérieux, « Si je tombe, je veux tomber dans un lit. » Elle avait préparé son lit. Ça se fait qu'il lui a donné de l'amour. Oh, aïe, tapera trop fort, mon cœur fait mal, il lui a fait sauter sa rosette. » Après, c'était fait pour eux, gémissements et gémissements, ils s'aimaient d'amour doré. Farouche s'est laissée aller au fond d'elle. Elle a fermé les yeux qui l'emportent, où il savait aller. Parfois, elle tournait la tête, elle soupirait. « Je te demande excuse, Farouche, de ne pas être assez experte. » Si vite, elle apprenait, pas besoin de l'adoucir. L'homme la visitait, débarquait son empreinte sur toutes ses plages de sable fin, entrait dans son église, explorait son nichoir, tapait ses reins, montrait sa force. Il chuchotait « C'est pour t'appeler ma femme, finir nos jours ensemble. » 20 000 piastres l'auraient pas acheté. Ils ont tout gaspillé tant qu'ils ont pu. Ça disait en leur langage de passion « Homme, pique-moi encore, croque-moi, prends-moi toute. » Gémissement et gémissement. Elle avait beau lui offrir toutes ses belles affaires, toujours il redemandait. Elle gémissait. Allons voir ce qui s'est passé. Toutes les 5 heures de leur vie, ils en auraient voulu 3 dans les airs. Puis à la fin, mon amour à Dieu, le corps usé, la machine enragée par la friction et le sang, sur le point de dormir, ferraille a exhalé en rendant les armes. Moi, la place où je voudrais mourir, c'est dans les bras de mon petit bébé. Dieu bon, on ne saura jamais. Azéline lui avait soulagé tous ses martyrs. Sitôt poussé un dernier soupir, il s'est englouti dans un sommeil profond. Ses jambes étaient allongées pour la première fois depuis des mois. En ce moment-là, Palestine Northwood aurait pu le capturer aussi commodément qu'une chevrette dans une scène. Azéline est restée seule avec son grand bonheur. Elle connaissait plus quoi faire à part respirer la terre. Elle s'est levée sans bruit, elle a marché à la fenêtre, elle l'a entrouverte. Dehors, les oiseaux de pluie faisaient carousse. Ils joutaient à des jeux. Entre eux croisaient leurs lignes. Elle a doucement monté sa main entre ses cuisses. Elle aimait cette nouvelle odeur qui l'habitait. Dans sa bouche, sa langue était assoupie. Derrière elle, un homme qui lui appartenait respirait. Dans le potager de Basel fanaient les dernières roses. Son esprit resta dans le jardin de sa mère. Un serpent brûlant pénétra dans la bouche entrouverte d'Edius Raquin, s'enfonça dans son gosier comme une torche de feu au fond d'un puits et réveilla le dormeur en sursaut. Le vieux bougre avait soif, assez pour boire une source entière. La veille au soir, Basel et lui étaient rentrés des clos à nuit tombée. Ils ne voulaient pas risquer de faire capoter le bonheur de leurs enfants par une arrivée inopinée. 3 grandes semaines auparavant, Edius avait fait écrire une fausse lettre par Momsel Grandois, annonçant la venue au pays d'un jeune homme de sa famille du côté de Nonxosten des Orteils, une parenté éloignée, mais un bon jeune homme. Une catégorie de neveux issus de germains particulièrement fiables. Un dégot très brun, très bouillant, un peu italien par sa mère, un orphelin entreprenant pour le business qui avait entendu parler de la beauté d'Azéline et profitait d'une tournée à Mamou pour venir visiter sa parenté. Avec des menteries de riz telles que celle-là, Basel avait manifesté quelques doutes. Elle avait bien essayé de poser des questions plus exactes sur les origines du prétendu et sa profession de grand voyageur, mais Edius l'avait envoyé ménager ses affaires. Qu'elle prépare plutôt un trousseau pour sa fille. Depuis sa fameuse passacaille avec le marchand itinérant Oakley Dodds, Basel courbait vite l'échine. Elle n'oubliait pas son écart et traînait sa mauvaise conscience comme une patte en bois. Penser qu'elle avait presque rompu la paille de son mariage pour l'histoire d'une belle robe rouge la jetait dans des grands cris amers. La transportait dans des valses tristes, des opéras de désespoir véritable qu'elle se jouait seule en rase campagne au coin des routes. Encore il lui arrivait de bergonner des plaintes avec sa petite trompe en cuivre, mais c'était une femme brisée. Jamais plus Basel ne se permettait un début de joie en imaginant l'audace d'un homme, la complicité d'un grand amant étendu sur son corps. Même en rêve, elle restait fidèle à la musique existante. Elle travaillait son jardinage et l'herbe pour ses bêtes. Le reste, c'était de la prière, du dormir, du manger pour se tenir en santé et un surcroît d'attention pour l'avenir de sa fille. À 40 ans, elle était devenue une femme morte dans son ventre. Son sang du moi s'était vidé. Ainsi, pensait-elle, vont les feux, la grêle et la chasseresse. Ils sont créés pour le châtiment. Elle était devenue aride comme une friche depuis qu'une partie de rire et de sexité lui était devenue étrangère. Ce matin-là, Edius s'éveilla avec la certitude que l'heure de ce qu'il avait attendu était sonnée. Il descendit du lit sans réveiller sa compagne. Tout de même, en passant machinalement la main sur les cuisses de son épouse, il les trouva étroitement jointes au creux de son ventre. Elle s'était repliée en une posture de défense ainsi que celle d'un enfant surpris par le sommeil au milieu de ses sanglots. Edius se fit la réflexion que Basel était devenue aiguë comme une épine, mais trop préoccupé à se lever de bien bonne heure, il ne chercha pas davantage à percer la raison insensible de son tarissement. Le ciel, uniformément pâle, commençait à devenir lumineux, et la piquette du jour encombrée de nuages ne tarda pas à faire son apparition à l'est de la maison. Edius avala un bol de café doux, planta son chapeau sur capute et sortit dans la cour. Il se fraya un chemin sec au milieu des flaques d'eau stagnantes, contourna la clôture en peline et baissa sa course en direction du plantain. L'ombre était encore épaisse, vestige d'une nuit sans lune. Les arbres se dressaient sur son chemin élevé et hautain. Mais le vieux homme les traversait de son regard, il cherchait la flamme du petit jour. Alors qu'une chouette branchée en hauteur tutubait un chuintement moqueur sur son passage, il envoya en direction de l'oiseau nocturne un jet indigné de cailloux. La pierre frappa le fût, rebondit sur la ramée et souleva un froissement d'ailes grises. Après qu'il se fût arrêté avec une sorte de glissement arrière, Edius entrevit tout contre son visage deux grands yeux effrayés sortir de la profondeur des abîmes. Il perçut le ressac de son sang en direction de son cœur et sentit tanguer le sol noir. La silhouette d'une vieille ferzée emportée par un vol chaotique et instable se noya soudain dans la confusion du rideau d'arbres.
Cultures en liberté, Denis Flageol.
Un grand pas vers le bon Dieu, la suite du roman de Jean Vautrin. Édius se redressa. Il était empli d'une crainte qui dépassait en contre-coup le simple envol d'un oiseau privé de lumière. Après deux, trois paroles inaudibles, dites pour conjurer le sort, il nettoya son esprit de ce signe porteur de présages. S'étant persuadé que la générosité du Seigneur touche avant tout les vivants, il s'obligea à la course. Édius s'était mis à galoper. Cher, cher, se disait-il en trottinant, allons prendre l'exemple de l'espoir dans la certitude d'être vivant. Les seules oreilles qui entendent sont celles qui sont ouvertes. Il voyageait donc à toute éreinte avec la conviction que rien ne pouvait couper la gorge à une destinée irrévocablement dessinée. Sa vieille carcasse étranglée d'émotion, il s'allongeait à grands pas tirant sur ses jambes. La pompe à sang frappait ses tempes avec un joyeux « bourdoudoun, bourdoudoun », c'est ça qui était le plus foutrement fort que tout. Et le bon temps revenait à sa hauteur. Il roulait sans réserve à ses côtés. Édius se sentait comme un écureuil volant. Aucune raison pour qu'il s'écrase au sol en sautant d'une branche à l'autre. Avec toute vitesse, il s'avança vers une clairière. Il aperçut farouche ferraille Crowley, occupé à faire ses ablutions, à parfaire son rasage dans une glace avec un soin méticuleux. Tout de suite, le vieux coupa par de maigres arbustes et courbé en deux, les joues riflées par les branches, fonça à la course vers son presque gendre. Il enjamba dans un seul saut un ruisselet né des eaux de l'automne qui traversait le sentier. Il parut inquiet, sitôt qu'il eut trouvé le visage du grand brigand. Ses yeux, les plis de sa bouche et de son front, n'offraient pas une expression bien définie. Sans user des formalités pour dire bonjour, sans enfiler quelques gants de précaution pour arrondir les angles, le vieux tourna une figure interrogative vers Farouche.
« Comment ça s'est passé ? »
s'enquit-il. « Elle a ouvert la porte.
Bah, »« C'est un début.
Mais tel que je connais ma fille Azeline, ça t'a guère avancé. »«
J'avais mis le costume neuf. »«
Ouais. »«
Je compte pas trop sur l'élégance pour faire plier mon petit roseau. Et après ?»
Ta fille m'a offert la grègue.
Bon, t'as bu un coup de café. C'est pas mauvais pour toi. Et après ?
Je lui ai fait les yeux doux.
Azeline t'aura vu venir. Fallait te grouiller un peu. C'est une fille. Elle est plus haute que ton cheval.
J'ai fait un pacte avec ses yeux. J'ai joué avec les mains de ta fille.
Je veux bien, mais t'es pas le premier qui s'est couché sous l'arbre. Jamais elle dégringole.
J'ai gardé les mains d'Azeline dans les miennes, je l'ai mirée longtemps contre moi.
Oh, mais ça, c'est pas un péché.
Longtemps, on est restés ficelés l'un à l'autre, sa bouche était en table.
Mais pas de péché, là. T'es pas allé plus loin que voici Smith, qu'est le plus avancé de ses prétendus. C'est tout ce que t'as fait ?
Non point, dit Ferraille. Je l'ai apprivoisé avec la longueur d'une caresse.
Ah, mais dit Édius, ça même, c'est pas un péché qui compte. Ça veut pas dire qu'elle t'aime.
Je voudrais la marier.
Y a pas de quoi, y a pas péché.
Le vieux était sincèrement désolé. Il a relevé la tête, il a interrogé en désespoir de cause.
C'est toutes les friandises, Farouche. T'as été capable de maniquer avec une femme qui t'a reçu en cheveux dans une maison seule ?
Non, j'ai joué avec ses tétons.
Oh, c'est un peu plus sérieux. Ça commence à être dans la ligne du mariage, mais c'est peut-être pas un mariage. C'est vraiment tout ça que t'as fait ?
Et puis le reste aussi. Le vieux bougre est devenu maillère attentif. Elle a bien voulu ?
Elle a dit « encore ».
Et forcément, l'un encourageant l'autre, ça se fait nous autres à glisser 5-6 fois sur le 6e commandement. Édius est devenu rouge comme un grand feu d'incendie.
Eh bien ça, il a dit en dissimulant son rayonnement de joie derrière une gravité bien imitée, ça, tonnerre de Dieu, c'est plus pareil. Nous tombons dans une grande honte pour la famille. Les vieilles coutumes s'en va. Un bon arrêt qui fait sauter le ruban d'une fille, ça se nomme un suborneur. Et il n'y a pas de Catherine, le punissement, c'est le shotgun, le mariage arrangé au fusil.
Il a regardé Farouche Ferraille Crowley avec une façon inoubliable et déshonorée d'homme blessé à mort dans ses convictions, son amour-propre, ses us et croyances. Il a piétiné son chapeau. Il a dit « Si ça se trouve, malheureux, adroit comme tête, tu l'as déjà mise en famille. On n'a que le temps pour réparer, et c'est un cas d'urgence. » Il a ramassé son galure.
Direct, je vais me plaindre aux pêcheurs. Mais avant de monter mes grands chevaux, j'ai acheté un gallon de vin rouge pour 50 sous. Buvons 3 ou 4 filets pour conclure l'affaire.
Il a tendu la bonbonne à son gendre, il lui a laissé prendre un peu d'avance et s'est désaltéré.
Et après, m'ont couru chez le curé. En route, je vais m'arrêter porter la nouvelle à ma femme, à une ou deux habitations pas trop lointaines, je casse le morceau que le neveu issu de Germain de mon oncle Sostène des Orteils est revenu sans prévenir au pays, qu'à peine descendu de son choual, ce sacré imbécile a embêté ma petite fille avant le mariage, qui lui a fait avaler une graine de melon doux pendant son sommeil.
Le neveu issu de Germain de ton oncle Sostène?
Parfaitement.
Un grand corbeau foncé, brun par sa mère, avec les cheveux noirs d'un dégot.
Tiens, fils, étale-toi ça sur la tête. Ta mère est une Graziali et tu seras né en Italie du côté de Naples.
Il lui tendait le flacon de teinture nuit mexicaine. Farouche a regardé la fiole, l'étiquette, la façon mode d'emploi. Pour lui, au train où marchait le vieux, les choses allaient trop vite. Bonté du monde. À l'entrée de quelque chose de lugubre qui s'avance à l'aube d'une folie si meurtrière, les yeux se ferment. Ainsi, souvent fois, le malheur fait-il l'arrivée de la malédiction, rapide comme un cercle de lumière aveuglante. Il cloue les êtres au milieu d'un geste inattendu. Il bouleverse la gravité de l'amour, sa grâce naturelle. Il met un ordre différent dans le convenu des habitudes. Il engloutit la raison. Il apporte la vision impossible d'un univers transfiguré. Avec quelle force lutter, Seigneur grand? Personne n'y peut. L'échogue va comme elles doivent aller. Qu'au faire? S'insurger contre la façon inéluctable du destin? Quant à la prière, ma foi, même si sa pratique est de bon usage, le bon Dieu n'est pas une chaise à dossier vertical qu'on déplie à l'étape pour s'assire à son aise. L'absurde est là, affistolé de neuf par les ruses du diable. Il capote l'élan de la passion. Et après le carnage des revolvers, s'il reste quelque chose de la fragilité tenace de l'espèce humaine, une once de bon sens qui ressemble à un germe de vie, s'il reste les ruines d'une maison calcinée, les lamentations d'un vieux homme ou le cœur déchiré d'une fille, nul doute. Les vautours s'en chargeront. Les carancros sont là, ils déchiquettent la nourriture d'autrui, ils s'élancent lourdement avant de prendre enfin leur vraie hauteur. Allons maintenant raconter cette histoire en de plus simples mots. Au matin de ses noces, il était 8 heures à peine, Azéline était fraîche. Toute la maisonnée faisait ruche. Elle bruissait d'un grand nombre de voix de femmes occupées à frobir le parquet avant de se transformer en cuiseuses de toutes sortes de viandes d'oiseaux, de gibiers et de poissons. À cette heure, le ferraillage des rires et des plaisanteries à double entendu allait son train. Il n'était plus question que de mangeaille, de niam-niam ou de charade sur les niches et charivaris du vieux temps. Même le soleil, pour une fois, était du coin. Le vieil astre, éclairant la nuée à rebours, s'était arrangé pour apporter aussi sa signification de bonne humeur. C'est dire si, chez les Raquins, personne n'aurait pu se douter que la haine, la bêtise, la violence franchirait la ligne de modération et qu'il allait falloir renoncer à tout ce qui ressemblait à un chemin droit vers le bonheur. Pourtant, Dieu sait. La quinzaine auparavant, le premier signe du mal-sort planant sur les personnes avait été donné par le vieux Hippe. Exactement quand le foutu chien avait déserté la compagnie de farouche ferraille Crowley. Vous autres, bien entendu, l'affreux bétail avait foutu son camp avec ses puces. Le taillot, malgré l'aspect délapidé de sa course et le peu de lustre de sa fourrure haillonnée, était, comme on sait, un inépuisable compagnon de chasse. Il faisait montre dans les fourrés, les rabats ciliaires, d'un odorat infaillible. Il levait l'armadille ou le chaoui s'y prièrent aussi bien que le râle bleu ou le papabotte. Mais outre son expérience de pistard fin pour le poil et hardi pour la plume, ce fils de putain partageait avec les rats un instinct supplémentaire, celui qui pousse les rongeurs à quitter le navire sitôt que dans la cale s'installe une voie d'eau. On n'avait pas besoin de bêtiser sur les prémonitions du vieux Hippe. Mais une fois déjà qu'on se souvienne, obéissant aux signes des temps, le vilain Corniaud, inspiré par son flair de capon, n'avait pas hésité à battre la campagne. À fuir la compagnie des Dius pour se mettre sous la protection de farouche ferraille Crowley, dont il entrevoyait l'instinct de fauve comme un meilleur bouclier pour lui-même. Ce coup-ci encore, à la veille de la malchance, le taillot avait choisi de chercher appui en frayant avec une autre compagnie. Séquestré dans la pacanière, Hippe montrait depuis déjà plusieurs jours des envies de humer d'autres odeurs et de retourner chien divagant. La nuit venue, alerté par le boulevard de son sommeil agité, farouche ferraille avait cru que le bestiau était gagné par le paysan, qui est plus qu'un ronflement ordinaire. Mais l'homme avait beau grouiller rudement l'animal, comme s'il avait peut-être un mauvais rêve, le corneau levait les oreilles en grondant. L'instant après, c'était tout le contraire. Il se donnait des allures de chiot, rampait au sol, poussait des cris plaintifs, ou bien, soudain, aboyait sur les nerfs. Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc, et cette semaine, la lecture de ce roman « Un grand pas vers le bon Dieu » de Jean Vautrin. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.